L'histoire de Marc 9 fait partie de la dernière phase du ministère de Jésus. Elle se déroule après l'extraordinaire expérience de la transfiguration. Jésus avait amené trois de ses disciples avec lui sur une haute montagne. On croit traditionnellement qu'il s'agit du mont Tabor, un vingtaine de kilomètres au sud-est de la mer de Galilée et non loin de Nazareth. Avec Pierre, Jacques et Jean, Jésus avait gravi la montagne d'environ 500 mètres de haut. Soudain, sous leur yeux, Jésus prend une autre apparence. Ses vêtements deviennent d'un blanc éclatant. Ensuite, Élie et Moïse se sont joints à eux. Alors que Jésus parle avec Élie et Moïse, une nuée les recouvre et une voix en sort en disant, « Celui est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Ça a dû être une expérience unique. Rien d'étonnant que à ce que Pierre veuille que cela dure. Il suggère donc de construire des tentes dans lesquelles ses hôtes et les célestes pourront rester. Alors que les trois disciples vivent cette expérience extraordinaire, les neuf autres disciples qui étaient restés sur place doivent faire face à des circonstances très différentes. Un homme, dont on ne connaît pas le nom, avait amené son fils auprès du groupe des disciples. Le garçon avait des graves problèmes physiques et mentaux. Dans leur description des personnes différentes, de cultures différentes, ont souvent mis l'accent sur des caractéristiques différentes. Dans de nombreuses cultures, on insiste sur l'élément de possession démoniaque. Dans notre monde occidental, nous sommes plus enclins à penser à un cas d'épilepsie grave. L'homme s'était approché des disciples et leur avait demandé de guérir le garçon. Le père s'attendait à ce qu'il soit capable de chasser l'esprit qui torturait son fils. Il est fort probable que l'homme ait entendu parler des miracles accomplis par les disciples de Jésus. Nous pouvons d'ailleurs les lire dans le récit de la mission des 72, en Luc chapitre 10. Mais dans ce cas précis, les disciples sont incapables de faire en sorte que le démon quitte le corps de ce garçon. Imaginez la scène. Les disciples sont frustrés. Leur réputation en prend un sacré coup. Le père, il est déçu. Son fils n'a pas été guéri. Il y a encore une foule qui attend la suite. Le père et le fils épileptique sont toujours là. À ce stade du récit, Jésus descend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. L'atmosphère change instantanément. Et le père approche Il s'approche de Jésus. Il dit, tes disciples n'ont pas pu guérir mon fils. Et alors qu'il prononce ce mot, l'Esprit s'empare du garçon et lui fait subir une terrible convulsion. Le garçon tombe par terre, se roule, de la mousse sort de sa bouche. Jésus demande alors, depuis combien de temps est-il comme cela? Et le Père répond, depuis son enfance. Et parfois c'est pire. Ça peut même être fatal quand l'Esprit le jette dans un feu ou dans l'eau. Le Père réalise que l'état de son fils est vraiment grave. La situation était peut-être trop compliquée pour les disciples, mais alors, Jésus pourra-t-il l'aider? Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre secours. Tout cela nous amène à un moment charnière dans le dialogue entre le Père et Jésus. Moment qui est alors d'ailleurs le point d'orgue du récit, encore plus que la guérison elle-même, qui sera décrite plus en détail par la suite. Le point d'orgue de ce récit, c'est ce que Jésus va dire et ce que le Père va dire. Jésus dit, que veux-tu dire par « si tu peux » Bien sûr, Jésus dit, je le peux. Mais ça dépend non seulement de moi, si je peux le faire, mais ça dépend aussi de ta conviction que je suis capable de guérir ton fils. Tout est possible pour celui qui croit. Viens ensuite la phrase célèbre prononcée par le Père. Viens au secours de mon manque de foi. Je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Le Père sait que sa croyance est imparfaite et chancelante. Mais au moins, il a quand même un peu de foi. Après tout, il est venu trouver les disciples et il est resté, même quand ceux-ci n'ont pas pu guérir son fils. Peut-être il a pensé, on ne sait jamais. Après tout, ce Jésus semble être un homme remarquable. Notez bien la réaction de Jésus. Il a été plutôt dur en s'adressant à ses disciples qui avaient échoué. Il a dit « Génération sans foi ». Mais par contre, Jésus n'adresse aucune reproche au Père. Il aurait pu dire « Bon, reviens quand ta foi sera plus forte ». Non, Jésus reconnaît une certaine étincelle de foi. Et sur cette base, il répond à l'appel du Père qui demande la guérison de son fils. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Cette combinaison de croyance, de foi et d'incrédulité se retrouve partout. Dans de nombreux pays occidentaux, le christianisme perd beaucoup de son pouvoir et de son influence. Et de nombreuses dénominations constatent une hémorragie constante de leurs membres. Mais quand même, il y a encore beaucoup de foi, beaucoup de religiosité. Beaucoup de gens continuent à croire en Dieu. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis. Selon un sondage de Gallup de 2016, 89% des Américains croient encore en un Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a un grand nombre de chrétiens, même des protestants en Europe, qui ne sont pas sûrs de l'existence de Dieu. Et bien sûr, croire en Dieu ne signifie pas que les gens ont une vision correcte, qui soit biblique, de Dieu. Pour beaucoup, Dieu est avant tout quelque chose plutôt que quelqu'un. Dieu est pour beaucoup en grande partie une construction mentale basée sur leurs propres idées, avec des éléments empruntés à de nombreuses traditions. Pour certains, Dieu est un Dieu bienveillant. Il répond aux prières et soulage parfois la souffrance. Mais pour beaucoup d'autres, Dieu est un Dieu autoritaire ou un Dieu accusateur. Il est le patron et mieux faut faire ce qu'il dit. Il est souvent un Dieu lointain. Il est quelque part à l'arrière-plan, mais ne fait pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose à faire avec la vie quotidienne. Beaucoup de gens autour de nous disent souvent « Oui, je crois. » Mais en même temps, ils doivent admettre qu'ils ont aussi beaucoup d'incrédulité, de doute. Ils ne sont pas sûrs de beaucoup de choses. Dieu va-t-il réellement leur pardonner? Est-ce qu'il écoute vraiment lorsque on essaye de lui parler? Est-ce qu'il se préoccupe vraiment de nous quand on voit toutes les souffrances dans le monde? Y aurait-il vraiment une vie après la mort? Et chez les adventistes, la plupart des adventistes disent croire en Dieu, mais à l'instar des autres chrétiens, ils n'ont pas nécessairement une image biblique correcte de Dieu. La plupart des adventistes disent « je crois ». Cependant, je suis convaincu qu'un grand pourcentage parmi eux prie également très souvent « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi ». Le doute est très répandu parmi les chrétiens, aussi parmi les chrétiens adventistes. Si une chose est devenue claire pour moi, après avoir écrit mon livre sur la notion de doute, c'est que je n'ai pas surestimé la quantité de doute chez nous, mais au contraire, je l'ai sous-estimé sévèrement. Et ce doute ne concerne pas seulement certaines des concessions adventistes traditionnelles que existe-t-il un sanctuaire céleste où Christ accomplit un travail spécial depuis 1844, où le pape est-il l'antichrist le dimanche, est-ce que c'est la marque de la bête? dans l'Église adventiste. Beaucoup de gens se débattent avec les questions fondamentales de la foi chrétienne. Pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances? Ou, plus personnellement, chez Dieu, Dieu voit que j'essaie de le servir. Alors pourquoi est-ce que je rencontre tant de malheurs dans ma vie? Pourquoi mon meilleur ami, qui était la plus gentille personne sur terre, pourquoi est-il mort du cancer? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Comment ça va être? Et tous ces scénarios adventistes de la fin du temps, qu'est-ce que je pense de cela? Oui, pour certains, de telles pensées ne sont que des instants fugaces d'incertitude. Mais pour autres, ce sont des préoccupations constantes qui sont un vraiment fardeau. Certains peuvent se sentir comme l'éthicien Louis Smith, un professeur en théologie de Fuller Theological Seminary, qui confessait « Parfois, je m'accroche à ma foi, juste par mes ongles. » Pour certains, être un membre de l'Église, même de l'Église adventiste, est devenu principalement une question de culture. Il appartient à la sous-culture adventiste et, pour diverses raisons, ne veulent pas couper le lien qui les lie à l'adventisme. Il y a quelque temps que j'ai rencontré une personne merveilleuse qui me dit « Pasteur, je suis devenu un agnostique adventiste. Je suis sûr qu'il ne reste pas beaucoup de choses sur lesquelles je peux être sûr. » Et effectivement, quand je m'analyse moi-même, j'avoue que je prie souvent la prière du Père qui est venu à Jésus à la recherche d'une guérison de son fils. Je crois. Oui, Seigneur, certainement, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi qui menace souvent de me submerger et de m'étouffer la conviction que j'ai. Ce matin donc, nous voulons réfléchir un peu sur notre foi, mais aussi sur nos doutes. Je suis ici ce matin pour vous dire que l'incertitude et les doutes concernant les promesses de Dieu, concernant sa présence, ils font partie de la vie, sont même un mode de vie. Nous sommes des êtres humains. Il est tout à fait naturel que nous luttions, doutions, posions des questions, nous interroguions sur la présence de Dieu et sur ses promesses. La foi et le doute sont les deux côtés d'une même médaille. Là où il y a la foi, il y a aussi le doute. Les gens qui disent qu'ils ne doutent jamais, je crois qu'ils ne disent pas la vérité ou ils ne réfléchissent pas profondément sur leur vie, sur leur foi. Je me méfie de gens qui disent qu'ils ne doutent jamais. Ian Ramsey, un célèbre membre de l'Église anglicane du milieu du siècle dernier, il a déclaré que des personnes qui sont sûres de tout dans la religion, ils ont souvent des préjugés extrêmement élevés et ils ont très souvent tendance d'être fanatiques. Avez-vous rencontré des personnes dans notre Église qui savent tout sur tout? Ils peuvent expliquer le fonctionnement interne de la Trinité et ils connaissent le calendrier exact des événements de la fin du temps. Ils connaissent le mystère des deux natures de Christ et peuvent vous faire la visite guidée du sanctuaire céleste. Ils n'ont aucun doute sur le moment exact et la manière dont Dieu a créé le monde. Pour être honnête, avez-vous rencontré de telles personnes? Moi, oui. Mais pour être honnête, j'essaie d'éviter de leur parler de tout ce qui touche à la foi et à la théologie. Je ne peux pas m'identifier à des gens qui savent tout sur tout. Le doute, c'est l'autre côté de la foi. Ce doute peut être principalement de nature intellectuelle. Lorsqu'il est difficile de concilier des choses que nous vivons ou que nous voyons dans l'histoire ou les choses dans le monde qui nous entoure avec des choses que nous lisons dans la Bible. Souvent, je rencontre des gens dans notre Église qui ne peuvent pas croire à une création littérale. Et je rencontre des gens qui disent « c'est difficile à croire qu'il y avait un serpent qui a parlé ou un ânesse qui a parlé ». Ils se posent des questions sur le soleil qui recule et sur un grand poisson qui dévore un prophète et le recrache 3 jours après. Beaucoup en sont venus à douter des interprétations de certains passages de la Bible qu'ils ont avalés dès leur jeunesse. Oui, il y a beaucoup de questions. Comment dois-je lire la Bible? Dois-je simplement accepter le modèle herméneutique, c'est-à-dire les règles de l'interprétation que l'Église a tracé pour moi? Mais tout doute n'est pas intellectuel. Il existe souvent aussi une forte composante émotionnelle. C'est la question de confiance. Fiche faire confiance à Dieu. Fiche m'engager en toute sécurité pour lui. Beaucoup voient le doute comme quelque chose d'extrêmement négatif. Et bien sûr, nous sommes encouragés à avoir la foi et à la nourrir plutôt que de cultiver notre doute. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Beaucoup de héros dans la Bible ont dû faire face au doute. Pensez à Élie, après son expérience au sommet du mont Carmel. Dieu l'a compris et a continué à travailler avec lui. Pensez à Jean-Baptiste. Christ ne l'a pas réprimandé à cause de son doute, mais l'a encouragé. Pensez au Thomas Jésus l'a pleinement accepté comme l'un de ses apôtres. Gérer ses doutes commence par le reconnaître. Il faut être honnête sur le sujet, à leur sujet, ne pas les nier. Dieu n'est pas menacé par vos doutes et vos questions. Quelqu'un a dit, Dieu est assez grand, assez intelligent et confiant pour faire face à tous vos doutes et à toutes vos questions. Le doute peut être comme une nouvelle paire de lunettes et vous voyez plus. Traitez vos doutes de manière positive signifie que vous les prenez au sérieux et que vous avez vraiment un désir de chercher des réponses et de trouver des réponses. Nos questions et nos doutes ne doivent pas nous décourager, nous faire craindre de ne plus avoir aucune certitude. Au contraire, ils doivent nous inciter à chercher, à lire, penser, méditer, prier, à dialoguer avec les autres. Ce processus peut être long. Il n'existe pas un calendrier précis. Certaines questions peuvent ne jamais trouver de réponse. Mais il y a aussi la joie de la découverte, la joie d'apercevoir une petite lumière au bout du tunnel. Ce processus de recherche, de lecture, de prière, de réflexion comporte un risque de devoir changer d'avis de manière plus radicale que celle à laquelle nous étions préparés. L'un des livres les plus importants du XXe siècle est celui de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Kuhn explique dans son livre comment fonctionnait le progrès scientifique. Les scientifiques développent des théories, dit-il, et à mesure que de plus en plus les travaux scientifiques nous sont effectués, les théories ont tendance à se renforcer. Mais il arrive aussi que les scientifiques découvrent des choses qui ne cadrent pas parfaitement avec les théories établies. Pendant un moment, cela ne dérange pas trop. Selon eux, les travaux futurs s'occuperont de rectifier les divergences. Mais quand de plus en plus de découvertes sont faites et que celles-ci ne peuvent pas être réconciliées avec ces théories préalablement établies, il faut alors un changement de paradigme. Il devient nécessaire de revoir les théories établies d'une manière totalement nouvelle. Et la conséquence est qu'une théorie totalement nouvelle sera développé. Quelque chose comme ça peut se produire lorsque nous traversons un processus de révision de notre foi. Nous serons peut-être amenés à traverser une sorte de changement de paradigme religieux. Pour certains, peut-être pour beaucoup, c'est une pensée inconfortable qui met mal à l'aise. Cela pourrait affecter notre foi de façon très importante. Nous pourrions même nous retrouver avec plus d'incertitude de lorsque nous avons commencé à réfléchir. Cette peur a bloqué de nombreuses pensées franches et offertes. Je détecte beaucoup de peur à repenser notre héritage adventiste de la part de nombreux dirigeants, pasteurs et membres de l'Église. Car quel effet cela va-t-il produire sur notre structure de nos croyances? Cependant, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre alternative si nous voulons rester fidèles à nous-mêmes et si nous voulons que notre jeune génération s'engage réellement dans notre Église. Cela doit rester notre prière sincère. Je crois, Seigneur, mais aide-moi à faire face à mon manque de foi. Lorsque nous prions, nous devons faire toujours un pas en arrière, dans l'humilité, sachant que nos connaissances et notre compréhension resteront toujours partielles. Les cerveaux humains ne pourront jamais rivaliser avec Dieu. Notre compréhension sera toujours incomplète. Comme l'apôtre Paul dit, à présent nous voyons dans un miroir. Ce matin, je ne veux pas entrer dans une argumentation philosophique sur la question de savoir si, en tant que chrétiens, nous avons suffisamment de preuves solides pour confirmer nos croyances. Je pense à ce que le philosophe danois Kierkegaard a dit. Et il dit que nous ne pouvons jamais prouver que Dieu existe par des preuves purement intellectuelles. Finalement, il dit, nous sommes pleinement convaincus que Dieu est là et qu'il est là pour nous dans notre culte, dans notre louange. Ces éléments nous amènent à la prochaine et dernière partie de notre méditation de ce matin. Comment échanger nos doutes contre une foi forte? Vous savez, je viens d'Hollande, et là, Jean Calvin était très important pour les chrétiens. Alors, pardonnez-moi de citer au moins une fois Jean Calvin. Il a dit très clairement, « Notre foi n'est jamais parfaite, et cela implique que nous sommes tous au moins en partie incroyants. Cependant, nous ne sommes pas assez intelligents ou spirituels pour gérer efficacement notre manque de foi et nos doutes par nos propres efforts. Le manque de foi n'est pas synonyme de pessimisme ou d'anxiété. On ne peut pas lever son doute en suivant un cours de psychologie ou de philosophie, ou en suivant une thérapie. La réponse au doute n'est pas dans une étude profonde de 28 croyances fondamentales. Pouvoir dire « je crois », ce n'est pas la même chose d'apposer sa signature sur un document avec tous les dogmas de l'Église. Permettez-moi de terminer avec une petite histoire. Vous le connaissez peut-être. Il existe en différentes versions. Nous sommes en 1859. Une corde est tendue sur longue la largeur des chutes de Niagara. Charles Blondin marche de long en large sur cette corde. À plus de 50 mètres au-dessus de l'eau, entre le Canada et les États-Unis. La foule répandue de deux côtés le regarde et le voit faire toutes sortes de choses dangereuses. Une fois, M. Blondin traverse sur des échasses. Une autre fois, sur une bicyclette. Il a même déjà porté un poêle et cuit une omelette au mi-chemin sur la corde. Ce 15 juillet 1859, Blondin traverse la corde du côté canadien et revient en poussant une brouette. Les chiens sont excités. Il a déjà prouvé qu'il peut faire tout. Mais là, il souhaite à présent une participation du public. Il demande à une volontaire de monter dans la brouette et de traverser les chutes avec lui. Si Blondin avait demandé, croyez-vous que je puisse amener une personne de l'autre côté dans une brouette, la plupart des gens auraient répondu « Oui, tu peux le faire. » Mais lorsqu'il a demandé de vraiment mettre toute leur confiance personnelle en lui, la situation était différente. Aucune volontaire ne s'est manifestée. Et vous, et moi, nous pouvons avoir des doutes intellectuels. Mais est-ce qu'il est possible qu'au fond, le problème soit avant tout une question de confiance? Alors ainsi, répétons les mots du père des garçons épileptiques. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Aide-moi d'avoir davantage confiance en toi, afin que, au fond de moi, je sache que même si de nombreuses questions restent sans réponse, je peux te faire confiance en tant que mon Dieu et que ta présence est dans le présent comme dans l'avenir. Je suis sûr, je suis en sécurité dans ta brouette. Amen.